Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et vous écoutez l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission de promouvoir un internet plus libre, plus éthique et plus inclusif, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui sensibilise les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on continue notre série d'émissions sur la philo et le libre. L'émission d'aujourd'hui s'intitule La servitude volontaire numérique, une référence que vous aurez sans doute reconnue. Et pour ce faire, je suis avec aujourd'hui Stéphane, Rémi et Romain de Picassoft. Salut à vous. J'avais évidemment oublié de mettre leur micro, donc salut à vous.
Salut Quentin.
Salut Quentin. Salut.
Et avant de passer la main à Stéphane, eh bien on remercie tout particulièrement André pour ses préparations remarquables de l'émission. Salut à toi.
Donc c'était un salut pour Audrey, mais salut à toi Quentin, donc de la part d'Audrey. Alors aujourd'hui on l'a dit, donc émission à base de philo, on va travailler sur, on va passer aujourd'hui des extraits de lecture du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, lu par Soualtam, lecture sous licence libre sur le site lecture-audio.fr. Je précise que l'émission a été préparée par Audrey, qui n'est pas à Compiègne en ce moment, mais qui nous a servi sur un plateau des extraits et commentaires que l'on va vous resservir. Donc on commence par l'interview. Donc bonjour Soualtam.
Bonjour.
Tu es donc prof de philo à Angoulême, avec également une formation et surtout une pratique du multimédia, comme on disait à notre époque, on dirait aujourd'hui du numérique. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire des lectures d'ouvrages de philosophie ?
Alors, pour l'essentiel, j'étais moi-même consommateur de livres audio et j'aimais beaucoup en fait écouter des histoires. Et j'ai eu envie de participer en fait un peu à l'aventure et notamment de m'intéresser plus particulièrement à la lecture de livres de philo parce que bon il y en a qui existent hein, mais je trouvais pas tout ce que je voulais et du coup au départ j'ai travaillé surtout pour moi et puis dans un second temps j'ai décidé de proposer ça plus largement au public.
Alors oui, proposer au public, je sais que tu as essayé diverses pistes de valorisation de ton travail, mais in fine, donc tu as choisi la voie du libre. Tu peux nous dire quelques mots sur le pourquoi de cela ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je m'intéresse au libre dans une certaine mesure, mais la première raison, c'est qu'au début, effectivement, je pensais en faire une activité un peu professionnelle, en tout cas qui me rapportait un peu d'argent. Je me suis rendu compte que c'était assez chronophage, d'une part, que ça fonctionnait pas véritablement bien, que ça m'intéressait pas, et que ce qui m'intéressait, c'était surtout de mettre à disposition des ouvrages et qu'ils soient écoutés. Et j'ai fini par en conclure que le moyen le plus simple était de proposer en libre accès, quoi.
Ok, donc pour toi, le libre, c'était une façon de faire connaître ton travail, que les gens t'écoutent. Du coup, il y a des gens qui t'écoutent, tu as des retours. Est-ce que tu as des informations un petit peu là-dessus, ça fonctionne ?
Alors j'avais plus d'informations quand j'essayais de commercialiser, parce que je m'y intéressais plus directement et je donnais des billets pour que les auditeurs aient la possibilité de laisser un peu des commentaires. Aujourd'hui, je m'y intéresse moins directement, donc j'ai quelques retours, mais qui sont assez... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà.
Ok. Tes élèves, ils t'écoutent, par exemple, tu sais, ça ?
Alors, mes élèves, effectivement, parce que dans les livres que je leur propose de lire durant l'année, il y en a un certain nombre que je propose en lecture sur mon site. Et je leur propose, du coup, s'ils le souhaitent, de les écouter plutôt que les lire. Donc, effectivement, dans la population de mes élèves, j'ai pas mal d'auditeurs, oui.
Ok. Quel est ton livre audio préféré et ou celui que tu conseilles pour démarrer à quelqu'un qui nous écouterait, qui n'a pas forcément l'habitude de lire de la philo, et peut-être même qui n'avait pas pensé avant, qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer ?
Alors c'est une question délicate parce que j'aurais tendance à répondre à chaque fois que je suis sur un nouveau projet, sur un nouveau livre, que c'est ce livre-là qu'il faut lire. Parce que tous les livres que je lis me passionnent et me semblent intéressants, même pour un béotien en philosophie. Après, évidemment, je ne proposerais pas de démarrer par les méditations métaphysiques de Descartes qui sont un peu techniques, mais par contre d'aller écouter Étienne de la Boétie, d'aller écouter Rousseau, d'aller écouter même Bakounine, ce sont des textes qui paraissent un peu, peut-être qui font un peu peur au départ, mais à partir du moment où on rentre dans l'écoute, ils me semblent effectivement tous relativement accessibles au final.
Ok, moi j'ajoute Marc Aurèle à ta liste que j'aime beaucoup et que je trouve que c'est un excellent démarrage. Et puisque tu nous disais que eh bien, ce qui te passionnait, c'était toujours ce que tu étais en train de faire en ce moment tu lis quoi de beau ?
Alors en ce moment, je suis sur les essais de Montaigne, mais je vais faire une pause parce que c'est extrêmement long, donc je suis à plus de 10 heures de lecture. Et je me dirige vers une lecture... vers Alain, a priori, pour la suite.
Ok, eh bien écoute, merci beaucoup à toi, Soualtane, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous, d'autant que je crois que tu rentres en cours d'ici quelques minutes. Merci
Absolument.
Beaucoup.
Absolument, quelques secondes. Merci à vous et puis bonne continuation.
Après l'interview de Soualtane, on revient donc pour l'échange. Alors, on va être étonné, hein, j'espère, de voir à quel point le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie est actuel. Il a été rédigé autour de 1549, sous un régime monarchique, donc en apparence assez loin de notre démocratie actuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous parle tant aujourd'hui, malgré tout? Nous ne sommes pas en dictature. Nous sommes en droit libre de penser, de dire et de faire ce que nous voulons, dans le respect des lois établies démocratiquement. Mais en fait, si le régime est différent, qu'en est-il de la situation politique? Qu'en est-il des asymétries de pouvoir et du contrôle des libertés individuelles?
Alors avant de parler directement de la situation actuelle, on peut effectivement se demander que signifie la servitude volontaire et comment peut-on vouloir se soumettre, que ce soit à notre époque ou à une époque plus lointaine. Et donc on va écouter le premier extrait lu par Suantam.
Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire.
C'est donc ainsi que l'on peut résumer la servitude volontaire définie par la Boétie. C'est donc la soumission à un pouvoir tyrannique par l'abandon volontaire de notre liberté. Et l'originalité du discours donc de la Boétie est justement de postuler que cette servitude n'est pas contrainte, mais qu'elle est consentie. Elle est donc même volontaire. On peut écouter un deuxième extrait où il s'en étonne.
Chose vraiment surprenante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner, c'est de voir des millions de millions d'hommes misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient redouter puisqu'il est seul, ni chérir puisqu'il est, envers eux tous, inhumain et cruel.
Étienne de la Boétie s'étonne donc de cette servitude volontaire et il la réaffirme ici dans un troisième extrait.
Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse.
Alors maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce que la servitude volontaire, on pourrait se demander qu'est-ce qui est à l'origine de cette servitude volontaire. Pourquoi est-ce que les hommes viendraient à se soumettre?
Eh bien, Étienne de la Boétie va nous proposer trois axes, l'habitude, le confort et le divertissement. On commence par l'habitude.
Cependant, l'habitude qui, en toute chose, exerce un si grand empire sur toutes nos actions, a surtout le pouvoir de nous apprendre à servir, c'est elle qui, à la longue, comme on nous le raconte de Mithridate qui finit par s'habituer au poison, parvient à nous faire avaler sans répugnance l'amer venin de la servitude.
L'habitude donc nous habitue à la servitude, même à l'amertume, le confort.
Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise, morde plus tôt et s'accroche plus vite à l'hameçon, que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher et conduire à la servitude, pour la moindre douceur qu'on leur débite ou qu'on leur fasse goûter.
Et donc, dernier point, troisième axe, le divertissement.
Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau. Cette ruse des tyrans d'abêtir leurs sujets n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fût emparé de Sardes, capitale de Lydie, et qu'il eut pris et emmené captif Crésus, ce tant riche roi, qui s'était rendu et remis à sa discrétion. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance. Mais, en voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être toujours obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser, il s'avisa d'un expédient extraordinaire pour s'en assurer la possession. Il établit des maisons de débauche et de prostitution, des tavernes et des jeux publics, et rendit une ordonnance qui engageait les citoyens à se livrer à tous ses vices. Il se trouva si bien de cette espèce de garnison que, par la suite, il ne fut plus dans le cas de tirer l'épée contre les Lydiens. Ces misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même les Latins formèrent le nom par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu'ils nommaient, eux, lundi, par corruption de Lydie.
Donc on a vu à présent les trois facteurs à l'origine de la servitude volontaire, comme l'avait rappelé Stéphane, d'un côté l'habitude, ensuite le confort et enfin le divertissement. Et si maintenant on veut faire le parallèle avec notre société donc plus actuelle, comment expliquer notre propre servitude volontaire actuelle donc, aux outils numériques et aux entités qui les contrôlent? Comment expliquer que nous consentons à la mise en place d'une société de surveillance, le capitalisme de surveillance dont on a déjà parlé, et à l'abandon progressif de notre vie privée?
Alors Rémi va nous donner quelques pistes sur, en lien avec les outils informatiques qu'on utilise, mais on va réécouter encore un petit extrait avant pour réintroduire cette notion d'habitude et l'approfondir.
Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Comme il arrive aux plus braves courtauds qui d'abord mordent leur frein et puis après s'en jouent, qui regagnent naguère sous la selle, se présentent maintenant d'eux-mêmes sous le brillant harnais et tout fiers se rengorgent et se pavanent sous l'armure qui les couvre. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mort, se persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent.
Bon alors Rémi, c'est quoi le rapport ?
Ben, le rapport, il y en a pas mal, hein. C'est du coup l'habitude, le fait qu'on ait toujours été habitué à ça, que ça, c'est ce qui a toujours été utilisé. On peut voir par exemple Windows installé sur les ordinateurs. Ben, on a toujours été habitué à utiliser Windows. Du coup, même si ça marche pas, enfin que ça marche pas en fait, c'est pas grave. On a toujours utilisé ça, on a toujours été sujet à ça. Et du coup, ben oui, on va continuer à utiliser ça. On vient même oublier la distinction entre la machine elle-même physique et le système d'exploitation. Du coup, Windows. Il en va de même pour un petit peu tous les logiciels qu'on utilise, notamment le navigateur Chrome qui est par défaut sur Android, ou bien tous les outils Google qu'on va utiliser par défaut parce qu'on a toujours utilisé ces outils-là, et où du coup la question ne se pose même pas d'aller voir ailleurs.
On réécoute un autre extrait pour continuer sur cette application numérique.
Il est vrai de dire qu'au commencement, c'est bien malgré soi et par force que l'on sert. Mais ensuite, on s'y fait, et ceux qui viennent après, n'ayant jamais connu la liberté, ne sachant pas même ce que c'est, servent sans regret et font volontairement ce que leur père n'avait fait que par la contrainte. Il est vrai de dire qu'au commencement, c'est bien malgré soi et par force...
Oups, une petite boucle.
Rémi, tu nous refais le lien entre cette histoire de liberté qui au départ est contrainte et qui ensuite devient en quelque sorte naturelle par habitude.
Et bien encore une fois Microsoft, Windows sur les ordinateurs. Au début, donc il y a fort longtemps, en tant que toi seul dans ce studio tout suivant Stéphane, Windows n'était pas par défaut sur les ordinateurs et Windows était peu utilisé. Sauf que un des facteurs qui a beaucoup joué, surtout en France, c'est les contrats de Microsoft et l'éducation nationale qui font que la plupart des établissements scolaires sont équipés d'ordinateurs avec Windows et donc on s'habitue depuis tout petit à utiliser Windows. Donc là où potentiellement plutôt ça a été fait de façon forcée par des contrats, etc. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir Windows, même dans les établissements scolaires, parce que c'est ce qu'on sait utiliser.
Et puis c'est vrai qu'il y a, aussi, ça je sais pas si on reviendra dessus, mais une importance du langage, du vocabulaire qui est utilisé. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que, je sais plus si tu l'as mentionné Rémi, mais quand on dit un PowerPoint plutôt qu'une présentation, un Excel plutôt qu'un tableur, sur Google plutôt qu'un moteur de recherche, c'est des choses, je me rends compte que tout le monde dit dans la vie de tous les jours, tu regarderas sur Google, et de toute évidence, je pense que ça forge les habitudes tout autant que...
Tout à fait, ouais.
L'école ou ce genre de choses, ouais.
On avait même fait une petite pancarte dans le cadre de la fête de la science qui s'appelait « Ne soyons pas des panneaux publicitaires, la diversité sur Internet commence par nos mots ». Je l'ai retrouvé pendant qu'on parlait. Et donc c'est effectivement important là pour nous, les profs, les ingénieurs, les citoyens qui s'adressons à d'autres, de faire notre petite part en essayant de prendre l'habitude de ne pas dire « passe-moi ton PowerPoint ou va faire une recherche sur Google », mais donc « passe-moi ta présentation ou va faire une recherche sur un moteur de recherche ». Et je suis certain que certains trouveront quelques fois où nous-mêmes on s'est fait avoir dans l'émission et nous le remonterons.
C'est possible. D'ailleurs, juste
forte chance. Ouais.
Bon, petite anecdote, pas forcément incroyable, mais avec des amis, on s'appelle souvent avec Framatalk, donc pour faire des visioconférences sur un navigateur, et ils continuent de me demander. On fait un Skype alors que ça fait un an qu'on n'utilise plus Skype, donc c'est de dire si le truc est vraiment devenu un mot du langage commun, quoi.
Moi j'utilise beaucoup Framatalk, ouais. Et du coup je vais avoir tendance à dire aux gens on fait un Framatalk
alors que Jitsi, peut-être.
Non, l'outil s'appelle Jitsi,
ouais,
et qu'on fasse un Framatalk à rendez-vous à n'importe quoi.
Carrément.
C'est l'outil qui est important et pas le nom de Framasoft.
On est d'accord aussi. Bien, donc maintenant qu'on a vu aussi un premier rapport entre la servitude volontaire que décrit Étienne de la Boétie et le numérique actuel, on peut se demander plus en détail comment est-ce que ça se manifeste aujourd'hui, par quels moyens techniques et par quelles modalités.
Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies.
Rien n'est plus à vous. Un exemple assez marquant, c'est par exemple toutes les bibliothèques, les musicothèques en ligne. Mais en fait, ça ne vous appartient pas. Ça va appartenir à Amazon, ça va appartenir à Microsoft, ça va appartenir à votre hébergeur. Mais tout ce contenu-là que vous avez payé ne vous appartient absolument pas. Donc ça, déjà, ça fait un lien du coup avec l'idée de divertissement. On va vous donner du divertissement, on va vous faciliter, mais au final, c'est les choses qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, tout ce confort-là, on en est conscient. On est conscient que les GAFAM revendent nos données, que ces outils ne nous appartiennent pas, qu'ils font toutes ces choses-là pour nous rendre potentiellement la vie plus confortable. Mais on ne se pose pas vraiment la question de est-ce que notre vie est plus confortable, ni de est-ce qu'on est prêt à faire ce choix-là.
Ouais, en quelque sorte, on ne met pas en balance le confort que l'on gagne avec la liberté qu'on perd. Hein. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'essayer de remettre un petit peu de poids sur la balance pour qu'on puisse faire nos choix, que chacun puisse faire ses choix. Encore un petit extrait, Quentin, pour voir si ça nous inspire.
Allez, c'est parti.
Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il les innombrables argus qui vous épient, si ce n'est de vos rangs? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les emprunte de vous? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous que par vous-même? Comment oserait-il vous courir sus, s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traître de vous-même?
Oh, ça pique un peu, j'ai l'impression quand même, non?
Ouais, sans concession là, Étienne de la Boétie, moins de gants que ce que nous on prend d'habitude. Mais cette idée en effet que rien ne serait possible, rien de la servitude que l'on vit ne serait possible. Ma phrase n'est pas parfaite, mais je laisserai chacun la corriger. Donc ne serait possible sans notre collaboration avec ceux qui nous asservissent. Alors on est au courant, on en a beaucoup parlé, mais on peut effectivement citer en particulier que l'ensemble des traces d'utilisation que l'on met sur le web, à chaque fois qu'on consent à donner des informations, à utiliser des sites qui nous demandent un certain nombre d'informations, juste parce que c'est plus rapide, parce que il vaut mieux cliquer, parce que c'était le premier résultat, enfin bref, tout ça, c'est du consentement que l'on donne pour nous asservir ensuite. Donc c'est nous qui produisons volontiers les données qui alimentent notre servitude.
Mais c'est quand même intéressant de voir que il y a une différence entre la façon dont les gens voient ce qu'ils appellent un échange et en fait l'asservissement que ça produit. Parce que la plupart des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter me disent, bon bah effectivement on ne paye pas d'argent, on paye avec nos données, mais c'est vu comme une sorte d'échange qui est équitable, du donnant-donnant. Au final, ils n'ont pas l'impression que cette collecte, ce lâcher total de l'ensemble des données de son intimité et de sa vie personnelle est l'instrument de l'asservissement. Donc ça, c'est difficile aussi, je pense, de se rendre compte de ça.
C'est difficile et probablement, à mon avis, hein, c'est aussi la difficulté qu'on a, c'est de le mesurer, c'est d'en prendre la mesure, notamment parce que toutes les conséquences ou les choses que l'on perd ne sont pas forcément à court terme, elles ne sont pas forcément super tangibles, et c'est longtemps après qu'il se passe un certain nombre de choses qu'entre guillemets on pourrait regretter. Et encore une fois, beaucoup d'actualité avec le texte qu'on est en train d'écouter. On continue du coup?
Ouais, carrément. Bah la prochaine question, c'est de dire que maintenant qu'on sait qu'on est transparent aux yeux du tyran et que notre environnement lui-même numérique devient de plus en plus opaque, qu'on le comprend de moins en moins, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut être libre sans vie privée ? Et c'est parti pour le prochain extrait.
Ils ne trouvent pas de meilleur moyen pour consolider leur nouvelle tyrannie que d'accroître la servitude et d'écarter tellement les idées de liberté de l'esprit de leurs sujets que, pour si récent qu'en soit le souvenir, bientôt il s'efface entièrement de leur mémoire.
Alors en effet, une des conséquences de cette transparence, et donc ça revient aussi sur la question que tu as posée précédemment, Quentin, sur le fait de renoncer en quelque sorte à notre vie privée. Donc une des conséquences, c'est l'absence d'espace dans lequel agir ou réfléchir sans le regard d'autrui. Et donc par extension, hors des limites posées par le tyran dans la Boétie, la société ou les États et les grandes sociétés dans notre monde contemporain. Or, le désir de liberté, qui donc est nécessaire à son exercice, hein, c'est un autre élément important, c'est qu'en fait, en quelque sorte, là, dans ce petit extrait, on a entendu qu'il n'y avait pas de liberté sans désir de liberté, sans avoir envie d'être libre, il ne peut pas être nourri par le cadre qui est posé, imposé par un tyran. Alors pour nous, un capitalisme optimisé pour alimenter un marché fondé sur la publicité. Donc en conclusion de cette petite analyse que nous avait servi Audrey, la vie privée est une condition de la liberté. Renoncer à sa vie privée, c'est renoncer à la seconde, et je trouve que ça vient en réponse à la question que tu as posée précédemment.
Un petit dernier extrait pour conclure sur ces trois raisons qu'on a évoquées.
Chiche.
Allez.
Ce système, cette pratique, ces alléchements étaient les moyens qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la servitude. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beau tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal encore que les petits-enfants n'apprennent à lire avec des images enluminées.
Quentin, tu as une question peut-être, non ?
Oui, carrément. carrément, je pense qu'on a déjà dessiné un petit peu les contours de la réponse qu'on va en faire, mais on pourrait se dire qu'aujourd'hui, qui a cette place de tyran, de grand colosse que décrit la Boétie ?
Alors, notre, entre guillemets, tyran, il a plusieurs facettes. Il a probablement également plusieurs réalités en fonction des angles qui nous intéressent. Pour nous, ici, on peut dire que à l'origine, dans le domaine du logiciel libre, le premier tyran, ça a été Bill Gates, le patron de Microsoft. On a parlé beaucoup de Google, avec notamment la campagne des Googlisons Internet de Framasoft. En ce moment, peut-être que la palme irait à Jeff Bezos d'Amazon. En tout cas, ça se passe l'un dans l'autre, hein, entre ces grandes entreprises. D'une façon générale, c'est ce qu'on appelle parfois le capitalisme de survie. C'est peut-être même le capitalisme dans son ensemble, mais on va peut-être pas aller si loin quand même, Quentin. Hein. Alors donc restons sur notre terrain, donc le colosse pour nous, donc les GAFAM surtout leur modèle économique qui est donc fondé sur l'extraction de données, donc la réduction de la vie privée, donc la réduction de la liberté avec ce que l'on a dit avant, et donc en vue de développer la publicité, donc la consommation, mais encore une fois on va s'arrêter là. Et donc d'une façon générale, on peut dire que c'est la puissance économique acquise par la mise en place d'un modèle marchand de revente des données personnelles et qui a concentré eh bien, les pouvoirs économiques, politiques, sociaux, culturels entre les mains d'un tout petit nombre d'acteurs.
Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne, mais aussi qu'il pense ce qu'il veut, et souvent même, pour le satisfaire, qu'il prévienne aussi ses propres désirs. Ce n'est pas tout de lui obéir, il faut lui complaire. Il faut qu'il se rompe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires, et puisqu'il ne se plaigne que de son plaisir, qu'il sacrifie leur goût au sien, force leur tempérament et le dépouille de leur naturel.
Alors, on l'a déjà dit, hein, les assez cohérents là, de voir une figure du tyran dans la position hégémonique des GAFAM, dans l'influence majeure qu'ils ont aujourd'hui sur tous les aspects de notre quotidien, et donc, in fine, sur notre façon de vivre, sur la manière dont on s'organise dans notre société.
Par ailleurs, on peut aussi juste y voir un petit mot sur le fait qu'il faille travailler pour le tyran, penser comme le tyran, une énorme influence des algorithmes de sélection des contenus qu'on va nous montrer, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou ce genre de choses, où se trouve le travail gratuit en fait, qu'on fournit en utilisant ces services, que ce soit par le fait de donner nos données, d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est même plus que jamais actuel comme discours. On passe sur l'extrait suivant.
Dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de faquins perdus de réputation qui ne peuvent faire mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ardente ambition et d'une notable avarice se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir une part du butin et être, sous le grand tyran, autant de petits tyrannos. Ainsi sont les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns découvrent le pays, les autres pourchassent les voyageurs. Les uns sont en embuscade, les autres au guet. Les uns massacrent, les autres dépouillent. Et bien qu'il y ait entre eux des rangs et des prééminences, et que les uns ne soient que les valets et les autres les chefs de la bande, à la fin, il n'y en a pas un qui ne profite, sinon du principal butin, du moins du résultat de la fouille. Ne dit-on pas que non seulement les pirates siciliens se rassemblèrent en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux le grand Pompée, mais qu'en outre ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités dans les havres desquelles, revenant de leur course, ils se mettaient en sûreté, donnant en échange à ces villes une portion des pillages qu'elles avaient recélés.
Alors, extrait qui nous a fait particulièrement sourire ici dans le studio. On se le repassera peut-être une autre fois, parce que là, on va être un peu serré aujourd'hui, mais je trouve qu'il mériterait d'être repassé. Écoute, je sais pas s'il y a beaucoup plus à en dire. Hein. Je pense qu'il y a quelques friponneaux et quelques tyrannos qui se sont peut-être reconnus en nous écoutant. Après, il est probable qu'il y en ait très peu parmi eux qui nous écoutent, mais on essaiera de leur faire porter notre parole. Mais c'est intéressant, hein, vraiment, cette idée aussi de complicité. Le tyran, il est pas seul, et là, de la même façon, eh bien, il y a tout effectivement un écosystème public, privé, etc., qui fonctionne et qui aide le tyran à se maintenir.
Mais c'est pour ça qu'il faut bien se garder aussi de toujours désigner un coupable ou un bouc émissaire. Finalement, c'est vraiment une chimère. En même temps, il faut bien des adversaires, j'imagine, enfin des adversaires, oui, disons, ponctuels. Parce qu'on peut pas se focaliser sur une espèce de masse protéiforme sans cesse en mouvement, mais voilà quoi, garde à la stigmatisation. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup, une fois qu'on a identifié en tout cas un petit bout de ce tyran, est-ce qu'on l'a fait à la française, on sort la guillotine, comment on fait?
On lui coupe la tête, tu veux dire, on l'éclate quoi.
Exactement, ouais, c'est l'idée, c'est ça qu'il faut faire ou pas?
Ouais, je sais pas, on écoute voir ce qu'il nous dit Étienne.
Allez.
Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libérés. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser.
Attends, comment ça, faut pas lui casser la gueule, hein ?
C'est un peu décevant.
Et non, Étienne de la Boétie ne veut pas, et donc comme l'émission est placée sous sa coupe aujourd'hui, on va l'écouter, plus le fait qu'on ne sait pas bien exactement comment faire, donc pour casser la gueule à Google. Donc on va essayer de suivre cette idée, mais cette idée est vraiment visionnaire et elle est aussi en adéquation avec un certain nombre de mouvements contemporains, en proposant donc de ne pas renverser le pouvoir par la violence, par une révolution. Eh bien, en fait, il avait anticipé en quelque sorte notre société de contrôle, où ça sert pas à grand chose de vouloir couper la tête d'un tyran, comme peut-être on pourrait ou on devrait le faire dans une société disciplinaire. La solution qu'il nous propose, eh bien, elle consiste en premier lieu à ne plus servir, donc à ne plus nourrir le pouvoir en place. Et donc c'est le message que nous avons en nous-mêmes, chacun d'entre nous, tout le potentiel nécessaire pour vivre librement, quel que soit le tyran et quelle que soit la forme de son pouvoir. Donc c'est intéressant hein, comme discours. C'est un immense espoir puisque en quelque sorte, on a encore le pouvoir et on a le pouvoir de faire autrement. Mais c'est aussi une lourde responsabilité puisque bien si on ne le fait pas, eh bien la faute ne retombe que sur nous-mêmes.
Du coup, la solution, ça serait d'arrêter d'utiliser les GAFAM et d'aller vers d'autres solutions alternatives.
Ah mince, tu crois? Mais alors du coup, ça veut dire que ce serait pas si difficile que ça.
Bah pas forcément.
Mais c'est vraiment cette idée hein, de renverser la notion de dépendance. Aujourd'hui, on se sent dépendant des GAFAM, ou un certain nombre de personnes se sentent dépendants des GAFAM tous les jours, mais en fait, il est possible en quelque sorte de les assécher, puisque leur modèle économique repose sur nos données, au moins de les affaiblir. Et encore une fois, pour ça, comme l'a dit Rémi, eh bien aujourd'hui, il existe un certain nombre d'alternatives. Voilà peut-être pour cette première partie, déjà assez dense.
Carrément.
Alors on va aujourd'hui écouter, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule là, on va écouter aujourd'hui deux chansons de Damien XVI. Alors il se trouve que c'est pas de la musique sous licence libre, mais on peut considérer, si on veut, que ça participe à la culture libre par les thématiques abordées. On peut préciser également que XVI cherche des voies alternatives à la diffusion de sa musique à travers une sorte d'initiative d'auto-édition sur le site Culture contre Culture. .fr. On va le voir d'ailleurs, ça lui permet de conserver une certaine liberté de ton. Alors dans cette première chanson, ça devrait aller à peu près. Dans la deuxième, on verra un peu mieux la liberté de ton. Et puis voilà, bah écoute Damien, si tu nous écoutes, je suis sûr que tu accepterais de passer tes musiques en CC BY. Donc voilà, écoute-nous et fais ça. On va écouter les Fils d'Artaud. Alors on l'a choisi les chansons parce que d'abord on les aime bien. Et puis ensuite parce que, eh bien, même si la révolte, on va le voir, est un tout petit peu moins subtile que la Boétie, eh bien, il y a toujours un peu cette idée aussi dans les chansons de Damien XVI. Voilà pour cette longue intro, et quand tu veux, Quentin.
C'est parti.
La fleur de mes nuits, amoureux dans l'incendie, tes yeux qui s'allument à ces choses qui arrivent. Aux horizons du soir, pourquoi pas à l'espoir, à ces vins qui tiennent chaud, à nos ivres bateaux, au plaisir, au désir de tout quitter sur un soupir, aux adieux toujours, aux promesses, aux amours, aux noirceurs, à nos cœurs, aux lueurs, à nos peurs, à ton cœur fatigué, à nos travers, nos libertés, à nos bouches essoufflées, à trop les embrasser. À nos bouches essoufflées, à trop les embrasser. Aux bistrots résistants, aux alternatifs enfants, aux violettes, aux printemps, aux obscurs, aux arborescents, aux navires échoués sur les trottoirs condamnés, à ces champs des esclaves, ces océans sans rivage, aux enfants de Truffaut, à nous les fils d'Artaud, aux amours sans chapelle, aux nuits à bouffer ton fiel, aux coins des abat-jours, aux armes de nos amours, à nos sangs littéraires, à nous deux, à la terre, au siècle sans talent, à gloire pour des quarts d'heure de temps, à ton parfum de spleen, à s'aimer sous le chant du cygne, au sens des écritures, au fil des littératures, au pays sans frontières, au coup de marteau sur les nerfs, aux armées d'oubliés, à nous les désespérés,
à nos cœurs écorchés, à nos corps embrassés, à nos corps écorchés, à nos cœurs embrassés. Jour se lève, je me crois, le silence aux horizons, le jardin de mes enfants, je crois qu'il est mort de pension. Sur ce ne sera pas rose, les écorcheront, garderont le souvenir d'un pansement de lendemain. Si on le chant du vent des plaines, on mènera au printemps, et qui sait sur les chemins chanter le chant des partisans. Nous serons fiers, nous serons un, notre sang sera du vent. Nos amours pour soigner la terre, nos infinis contre le roi. L'ami vient te joindre la table, on sait pas celle du roi. Les amis sont solidaires, mon amour sera pour toi. Les vagabonds des soleils noirs, loin des villes sans lumière, gardez au fond un espoir, celui des lois dans les clairières. Notre étoile à l'ego du souffle, mais elle éclaire comme un millier de chandelles en procession, des oriflammes à l'horizon. Sous les grandeurs, nous ne sommes pas funéraires. Nous sommes fils de la Renaissance, le drapeau des libertés. Sous le drapeau.
On se retrouve dans cet océan de douceur. Re-bienvenue à vous sur La Voix Libre, cette deuxième partie d'émission sur la servitude volontaire numérique. À la fin de la première partie, on avait vu qu'on n'avait pas besoin de sortir les guillotines et les fourches pour s'extraire du joug d'un tyran dont on finalement, nous, nos parents et nos ancêtres, choisis, à qui on a choisi de donner... ce pouvoir, et non pas un tyran totalitaire. On avait commencé à dire que finalement il suffisait d'arrêter de l'alimenter pour regagner notre liberté. Eh bien, on va continuer à explorer cette voie et voir ce qu'a à nous dire à ce sujet Étienne de la Boétie. C'est parti.
Et pourtant ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner.
Alors, on va explorer différentes pistes. Hein, donc, ne rien donner. Alors, une première piste qu'on propose ici assez souvent à Picassoft et à travers cette émission en particulier, c'est s'étonner, questionner un petit peu nos habitudes. Par exemple, on pourrait prendre conscience du changement de perception de l'environnement qu'introduit le smartphone et son rôle de traceur dans nos mouvements. Hein. La plupart d'entre nous avons un smartphone branché en permanence avec un GPS, une connexion 4G. Alors, on ne revient pas sur tout ce qu'on a dit, habitude, divertissement, etc. Mais du coup, in fine, qu'est-ce que ça change sur notre façon d'être dans notre environnement et qu'est-ce que ça produit? On l'a vu comme donné, en quoi ça alimente le tyran et comment est-ce qu'on le met en balance On pourrait aussi peut-être discuter de l'apparente gratuité des services numériques. Je crois que tu en as parlé, Rémi, tout à l'heure. Hein. À un moment, eh bien, on va payer en quelque sorte de nos données. Quentin aussi, tu faisais cette remarque. Mais sauf qu'à aucun moment, on a vraiment évalué la valeur de ce que l'on paye. On paye en données, comme ça nous paraît pas grand-chose. Mais sauf que, encore une fois, à terme, eh bien, ça a un prix. Et on s'en rend compte un petit peu qu'a posteriori. Peut-être qu'on peut continuer avec la Boétie et revenir sur le danger que représente la dépendance à un seul acteur ou un tout petit groupe d'acteurs, comme dans le cas des GAFAM.
Mais en conscience, n'est-ce pas un extrême malheur que d'être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il voudra? Mais on...
Donc, ah oui, encore un petit début de boucle de Quentin, laisse-la la prochaine fois.
C'est un extrait court.
Ouais, pour la Boétie, hein, l'enjeu, on l'a vu, c'est de cesser d'alimenter le pouvoir du tyran, parce que c'est en l'alimentant qu'on se maintient nous-mêmes en état de servitude.
Certes. Ainsi que le feu d'une étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. Pareillement, plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les gorge, ils se fortifient d'autant et sont toujours mieux disposés à anéantir et à détruire tout. Mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans les combattre, sans les frapper, il demeure nu et défait, semblable à cet arbre qui, ne recevant plus de suc et d'aliments à sa racine, n'est bientôt qu'une branche sèche et morte.
Bon, alors on l'a vu, effectivement, la première étape, c'est de se questionner, de se rendre compte que la surveillance ne va pas forcément de pair avec le numérique, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est le cas, puisqu'on est baigné dans une société où on a assez peu de contre-exemples. Mais une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, c'est pas suffisant pour devenir libre. Il faut une démarche. Qui dépasse la simple opposition à l'existant.
Tout à fait, pour ça, il existe plusieurs alternatives possibles. Comme le disait la Boétie, si on arrête de donner nos données à ces GAFAM, à ces grosses structures, elles vont finir par s'arrêter. Du coup, il suffirait, entre guillemets, d'arrêter d'utiliser ces services-là. On peut voir la campagne dégoogleisons de Framasoft comme une étape préliminaire. C'est-à-dire que en dépit de la petite particule D, Googleisation, c'est une démarche positive, hein, c'est la résistance par la négation. On va sortir de Google pour aller vers des alternatives différentes. Et parmi celles-là, du coup, on a la campagne des Googleisations de Framasoft, on a tous les chatons, et on a énormément d'alternatives un petit peu dans la vie de tous les jours sur tous les services numériques et aussi sur d'autres habitudes qu'on pourrait avoir dans le reste de notre vie.
Cela ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants encroutés, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils rappellent au contraire les choses passées pour juger plus sainement le présent et prévoir l'avenir. Ce sont ceux qui, ayant d'eux-mêmes l'esprit droit, l'ont encore rectifié par l'étude et le savoir. Cela, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l'y ramènerait, car la sentant vivement, l'ayant savourée et conservant son germe en leur esprit, la servitude ne pourrait jamais les séduire, pour si bien qu'on la coûtera.
Alors, tu l'as dit, Rémi, résister ne suffit pas. Il faut prévoir l'avenir, hein, ou prévoir le futur, ou construire le futur. J'ai entendu quelque chose comme ça. Tu as des pistes là-dessus ?
Tout à fait. Du coup, ben, on a parlé d'alternatives, mais les alternatives, il faut surtout les construire, les inventer. Et tout cela, bah, ça passe par l'imaginaire, par le désir, par une envie. Et il suffit juste de le faire, en fait. Il suffit d'avoir ce désir de liberté. C'est une condition nécessaire à son exercice, on l'a déjà vu. Et ayons ce désir, imaginons des nouvelles alternatives, construisons ensemble des nouvelles alternatives. On peut voir ça, du coup, avec la campagne Contributopia de Framasoft, qui est la suite de Dégoogleisons. Mais on peut le voir avec énormément de mouvements aussi qui se montent un petit peu partout. De construction, d'alternatives, de collaboration, d'imagination d'un autre monde.
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que les auteurs de science-fiction sont autant rattachés finalement à cette question du libre, puisque par leur imagination, ils contribuent à notre imaginaire, à ouvrir le champ des possibles, et finalement, je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants. Aller lire Trace, évidemment, il y a plein de choses intéressantes à ce sujet de temps. Bien maintenant, effectivement, on a dit que d'une part, on pouvait, donc, première étape, comprendre, deuxième étape, se mettre en opposition, troisième étape, eh bien, avoir une démarche positive d'émancipation. Donc c'est facile à dire, mais est-ce qu'on peut seulement le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les billes pour aller dans cette direction?
Alors on en a un certain nombre, hein. on en parle quand même souvent ici, donc on l'a vu, on en a reparlé notamment il y a deux semaines avec le principe même des logiciels libres. Et bien en fait des logiciels libres, c'est pas vraiment des logiciels libres, c'est-à-dire c'est pas des logiciels qui peuvent eux-mêmes exercer leur liberté, mais des logiciels qui en quelque sorte rendent les humains libres, qui permettent aux humains d'exercer leur liberté. Alors un collègue et ami à moi que je ne citerai pas avait trouvé cette formule pour parler des intelligences artificielle en parlant de machines qui donnent à penser plutôt que de machines qui pensent. Et bien de la même façon, je trouve que les logiciels libres sont des logiciels qui donnent à être libres plutôt que des logiciels libres. Dédicace à Bruno Bachimon quand même en passant. Les logiciels libres, l'internet libre, et bien en quelque sorte c'est un facteur de capacitation, c'est-à-dire, le mot n'est pas forcément très joli, mais la possibilité pour les êtres humains que nous sommes de se rapproprier les outils, les mécanismes, de les comprendre, alors pour ne pas les subir, pour avoir la capacité de les modifier. Et tout l'intérêt de pouvoir modifier un outil, hein, quelque chose qu'on ne comprend pas forcément toujours avec le logiciel libre, après tout ça sert à quoi de modifier un logiciel? Eh bien c'est parce que en fait il nous permet de mesurer nous-mêmes ce que fait le logiciel, et il nous permet en fait de le comprendre. Alors évidemment c'est peut-être d'abord un fer d'informaticien et d'ingénieur que de rentrer dans les structures internes complexes du code, mais même si l'on connaît quelqu'un qui modifie le code, même si on contribue, nous, peut-être un petit peu plus indirectement, en n'ayant pas une forte compétence technique, mais à de la traduction ou à de la documentation, eh bien tout ça nous aide à comprendre les structures de ces outils que l'on manipule tous les jours, et donc, en quelque sorte, eh bien de participer aussi à les faire évoluer, donc à modifier le cadre qui régit notre liberté.
Les esclaves, entièrement dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou, et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien, aussi font-ils tous leurs efforts pour les rendre toujours plus faibles et plus lâches.
Alors, cette idée d'esclave, hein, si on a vraiment écouté attentivement les extraits depuis le début, hein, on s'est fait quand même pas mal insulter, hein, par la Boétie. On va voir que finalement, Damien XVI va peut-être nous paraître moins violent que ça. Mais cette idée est vraiment très intéressante, hein. Elle rentre directement en résonance avec les logiques de l'éducation populaire, telles qu'elles peuvent être conduites par les CMA ou par Framasoft, c'est-à-dire arriver à donner à chacun d'entre nous, eh bien, un maximum de connaissances, de compétences, de faire pour justement s'extraire de cette situation d'esclavage. Alors, pour écrire son discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie a dû s'étonner du régime qu'il subissait. Ensuite, il a cherché à en comprendre les mécanismes. On a vu ça, il les a décortiqués, analysés. Et enfin, eh bien, en quelque sorte, il nous a proposé une solution en nous proposant de cesser de subir aveuglément ce qui nous est imposé, de réfléchir à une solution en rendant possible une société d'individus libres. Quand je lis cette petite conclusion essentiellement rédigée par Audrey, eh bien je me dis qu'on n'a pas choisi l'auteur par hasard, puisqu'en fait on est vraiment exactement, je crois, au cœur de ce que l'on essaye de faire avec notre émission.
Eh ben, je ne suis pas convaincu qu'il reste encore un extrait. Stéphane, il en reste un pour, euh, pour la toute fin, me semble-t-il.
Ok, oui, mais peut-être que tu aurais eu envie de me poser une question qui m'aurait permis de relancer un petit peu la discussion, sinon, si tu n'avais pas eu d'extrait.
Tu penses que c'est donc ça, Stéphane? Attends, mais décidément, cette émission est bien huilée. Et bien effectivement, Stéphane, figure-toi que depuis que tu me l'as fait remarquer, j'ai une question qui a germé dans mon esprit. C'est dire si tu as été efficace. La question finale, c'est de se demander comment articuler les libertés individuelles. On l'a vu, il y a plein de méthodes différentes comme antidote à la servitude volontaire, mais il y a fort à parier qu'elles ne sont pas individualistes, que c'est des structures collectives qui doivent supporter, produire ces antidotes à la servitude volontaire. Bien, je t'écoute, Stéphane.
Alors, je vais donner quelques éléments, mais c'est surtout Audrey là, qui a mené une réflexion très intéressante que je me suis peut-être pas tout à fait rappropriée. Mais l'idée est vraiment fondamentale, c'est-à-dire qu'on, si on avait arrêté l'émission maintenant, on aurait pu conclure que, in fine, c'est vraiment qu'une solution, c'est vraiment qu'une attitude purement individuelle. C'est-à-dire, il suffit que moi, à titre individuel, eh bien, j'arrête d'accepter la servitude pour, en quelque sorte, en sortir. Et bien, on imagine que les choses sont plus compliquées. Il faut en quelque sorte qu'on aille chercher une autre structure collective, une autre façon de vivre, de s'organiser, de travailler ensemble, qui nous permettra justement d'exercer notre liberté, libérée de la servitude du tyran. Ça nous amène, hein, si on refait encore une fois le parallèle avec le numérique, dans le système actuel, eh bien, on est sous la tyrannie des GAFAM. Je peux en quelque sorte décider de ne plus les utiliser, sauf que pour ne plus les utiliser, eh bien, il faut que j'ai des alternatives, et ces alternatives ne peuvent en quelque sorte émerger que d'un collectif ou d'un ensemble de collectifs. Alors, je pense que cette thématique-là pourrait nous emmener très loin. Je ferai juste peut-être une petite ouverture sur quelque chose dont on aura probablement l'occasion de parler, peut-être dans une troisième émission à connotation un peu philo, autour du concept d'archipélisation qui a été récemment remis au goût du jour par Framasoft notamment, pour ne pas les reciter 42 fois dans cette émission. Et donc l'idée générale, hein, c'est justement effectivement que, bien plutôt que d'être asservi à une tyrannie locale, enfin une tyrannie globale, plutôt, pardon, eh bien, on va promouvoir un modèle à base d'un ensemble d'îles qui, chacune, a ses propres règles, ses propres façons de fonctionner, et qui, par ailleurs, fonctionne également en archipel, c'est-à-dire ont la capacité de communiquer, d'échanger, de vivre ensemble avec d'autres îles pour former, eh bien, une logique d'archipel, dont la force globale, la force de l'archipel, eh bien, pourrait être comparable à celle d'un continent suffisamment organisé par ailleurs. Alors, je ne vais pas développer tout ça parce que eh bien, ça nous emmènerait trop loin. On va se proposer peut-être un dernier extrait avant de...
Alors, moi, j'aimerais vraiment lire un petit bout de ce qu'a écrit Audrey, parce que je trouve que c'est extrêmement brillant et ça m'a vraiment parlé. Donc, si vous me permettez de hacker un peu... C'est parti. Donc, Audrey nous rappelait que les GAFAM ont un modèle économique qui est fondé sur la publicité et que les algorithmes utilisés par ces services sont justement conçus pour nous faire passer le plus de temps possible sur ces services. Et pour ce faire, ils s'appuient sur les trois éléments que nous avait cités la Boétie, les habitudes, le confort et le divertissement. Ok, mais ces éléments-là, sur quoi s'appuient-ils ? Eh bien, sur ce qui vient de moi, de ma personnalité, de mes goûts. Et donc, les algorithmes construisent pour nous une représentation du monde, mais cette représentation du monde est façonnée par nous, par nos données. Donc, nous nous soumettons à ces mécanismes pour le plaisir provoqué par l'illusion que nous pouvons façonner un monde tout seul, sans besoin de personne d'autre. Bien sûr, on parle là d'un monde numérique et on simplifie, mais l'idée est là, et j'aime beaucoup cette phrase, notre servitude est celle de notre ego. Alors, on commence à comprendre pourquoi la rencontre avec autrui est la condition de notre liberté. C'est en allant à la rencontre de l'autre que je m'échappe de la domination de mon ego sur ma propre liberté. Voilà, je trouve que c'est très important et ça donne beaucoup de raisons de continuer à essayer de créer du lien social et voilà, d'avancer ensemble.
Eh bien, peut-être qu'on aura une quatrième émission dont le titre pourrait être « Notre servitude et celle de notre ego ».
Exactement.
On a au moins un titre, il n'y a plus qu'à préparer.
Qui claque un peu quand même. Ok, bon, alors comme tu l'avais proposé Stéphane, on se met un dernier extrait pour le plaisir.
qu'on mette de part et d'autre 50 000 hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains, les uns libres, combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ravir. Auquel croyez-vous que restera la victoire ?
Alors on va remercier, reféliciter Audrey, hein, parce que quasiment tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, eh bien en fait, a été préparé, écrit par elle. C'est elle qui nous a découpé les extraits, tout agencé, et on a juste, nous, essayé de jouer ça à peu près dans l'ordre. On arrive à la fin de l'émission avec un petit quiz avant de lancer la musique. Alors pour la musique, on avait un petit peu prévenu, hein, on est tout à fait libre de ne pas aimer ce que l'on va passer. On conseille peut-être aux certaines âmes sensibles de s'abstenir, ce qui normalement devrait avoir la vertu de faire rester tout le monde. Pour le quiz, petite double question ouverte aujourd'hui, de qui la Boétie était-il le copain et qui nous l'a rappelé en 1965? On se croirait là plutôt dans un jeu télé, mais ça change un peu. Allez, on envoie Bonnie.
Bonnie couche tard, Bonnie comptoir, Bonnie les bars, Bonnie perdu, Bonnie la rue, Bonnie qui pourquoi t'es pas venu, Bonnie boulevard, Bonnie trottoir, Bonnie qui est toujours là pour boire, Bonnie tes yeux, Bonnie adieu, Bonnie nous deux, ouais y'a pas mieux, Bonnie les gares, Bonnie s'égare, Bonnie la nuit, Bonnie bonsoir, Bonnie l'hiver dans ses paupières, Bonnie pas cher qui vend sa chair, Bonnie blessure, Bonnie cœur pur, Bonnie sanglot, Bonnie cyanure, Bonnie qui aime pas trop quand ça dure, qui aime un peu trop quand elle est dure, Bonnie en cure, ça c'est sûr, dans la voiture, Bonnie biture, Bonnie dans le mur, Bonnie je te jure, Bonnie m'a laissé la facture. Tout ce qui bouge, Bonnie vodka, la tequila, dit Bonnie, allez resserre-moi, Bonnie qui se pointe, Bonnie lapin, Bonnie tes nichons quand tu pointes, Bonnie qui laisse, Bonnie tes fesses, Bonnie qui me laisse, Bonnie tristesse, Bonnie les chottes, Bonnie les chiottes, Bonnie qui aime un peu trop mes potes, Bonnie pognon, Bonnie bison, Bonnie ouais, qu'un pain rond, Bonnie troquet, t'as pas payé, Bonnie c'est moi qui du raqué, le pompon, c'est le pompon, heureusement que j'aime bien tes nichons, Bonnie t'as bu, Bonnie t'as vu, Bonnie perdu, Bonnie tu mies, Bonnie charbon, Bonnie c'est bon, mais dis-moi qu'est-ce qui tombe par rond, Bonnie matin, Bonnie chagrin, Bonnie tapin, Bonnie con. Bonnie la suce, Bonnie la suce, Bonnie la mort quand ça l'amuse, Bonnie qui joue, Bonnie à genoux, Bonnie qui joue, et un point c'est tout, Bonnie pirate, Bonnie quatre pattes, Bonnie constate, Bonnie qui grave, Bonnie bonne sœur, ouais à quelle heure, Bonnie confesse au fond des fesses, Bonnie pénite, Bonnie m'habite, Bonnie ouais c'est de la dynamite, Bonnie dimanche, Bonnie dérange, qu'on voit son cul quand elle se penche, Bonnie qui crache dans le pénitier, lui qui aime bien se taper le curé, Bonnie la fête, Bonnie guinguette, Bonnie ouais t'as pas vu ta tête, Bonnie ta sœur, Bonnie mon cœur, Bonnie on ira voir en fleur, Bonnie sucette, Bonnie trompette, Bonnie pompette, Bonnie trompette, Bonnie pour sans poupée russe, Bonnie qui traîne dans les bars russes, Bonnie pas côté à l'Argus, Bonnie qui a la gueule d'Emmaüs, Bonnie qui danse, Bonnie polka, Bonnie qui ressemble à Petrouchka, Bonnie qui tête, Bonnie qui boit comme du petit lait ou à la vodka, Bonnie bonbon, Bonnie c'est con, Bonnie que tu sois pas un garçon, Bonnie la blonde, Bonnie sinon, Bonnie qui tombe quand elle est ronde, Bonnie vin rouge, Bonnie voix rouge, Bonnie qui tire sur tout ce qui bouge, Bonnie vodka, la tequila, dit Bonnie, allez resserre-moi, Bonnie torcher, Bonnie torcher, Bonnie torcher, Bonnie la folle, Bonnie qui plane, Bonnie
Et de retour toujours dans un océan de douceur sur la Voix Libre. Bien, il est temps de donner la réponse au quiz.
Oui.
Sans qui... Ah bah allez Romain, c'est pour
Alors,
toi.
Alors, la réponse était donc Montaigne, qui était le copain de la Boétie. Et donc 1965, en référence à Georges Brassens qui a cité l'amitié entre Montaigne et la Boétie dans Les Copains d'abord.
Et donc, petite dédicace à Sou Altam à ce sujet.
Si je voulais faire une blague facile, je dirais que ça m'étonne pas que c'est toi qui as écrit une quiz, mais bon. Hein. pour finir, les liens
Oui, totalement. Donc, le premier lien, ce sera http://lectureaudio.fr. Donc, dessus, vous pourrez retrouver les lectures de la Boétie et de plein d'autres philosophes par Sou Altam. Il y a aussi www.culture-contreculture.fr qui est le site de Damien Saez où vous pourrez retrouver ses musiques. Et enfin, contributopia.org qui est le site de Frama sur l'invention et la construction des futurs possibles, donc avec les alternatives aux GAFAM.
Eh bien, merci beaucoup Romain. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine. Ciao.
Bye.
Salut.